Donc, l'oiseau qu'on a vu, c'est le faucon pèlerin, ça s'appelle aussi le faucon Saint-Esprit. Parce que la façon dont il vole, il surveille, il contrôle, et puis il pique, eh bien, c'est le verbe, je vous l'expliquais dans la semaine de réunion, c'est le verbe qui est utilisé en hébreu pour dire que l'Esprit Saint planait au-dessus de la création. Hein? Donc, dans Genèse, au chapitre 1, « Et Dieu créa les cieux et la terre, Elohim, c'est les dieux, bara, c'est le verbe créer au singulier, créa les cieux et la terre. » Je vous ai expliqué que les cieux, c'est le temps divin de Dieu, non? Avec le trône de gloire, et tous les anges et les archanges. On a pris des textes. La deuxième chose, après, c'est le verset suivant, c'est que l'Esprit Saint se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit Saint se mouvait, le verbe se mouvoir, c'est ce que nous avons vu dans les chants hier, c'est l'action du contrôle, de l'autorité du Saint-Esprit sur la création, sur le cri, parce qu'il est Dieu. Ensuite, on a parlé, bien sûr, que « et que la lumière soit », c'est pas un verbe qui dit « que la lumière soit créée », au verset 3, c'est « la lumière, Nathan, elle se dévoile, elle se manifeste ». Et je vous ai expliqué que c'était le Christ, la lumière du monde, la vocation du Christ, et première, avant que le monde soit créé, il était déjà destiné à éclairer, à guider toute la création. Non seulement à la guider, mais à la créer, et ensuite à la juger. Alors, je vous avais expliqué qu'il y avait des ténèbres, la lumière et les ténèbres sont séparées, ça c'est dans le verset 3 et 4, eh bien, les ténèbres, bien sûr, nous savons qu'un archange et un tiers des anges dans le ciel sont révoltés contre Satan,
contre Dieu.
Cet archange s'est appelé Satan et par la suite. Et les ténèbres sont apparues, bien sûr, dès avant la création des hommes. Et quand l'homme a été créé pour devenir le partenaire de Dieu, pour être dans la gloire de Dieu et pour vivre dans les qualités mêmes du Christ, eh bien, Satan l'a détourné, lui a proposé d'être tombé dans l'orgueil, d'être indépendant par rapport à Dieu. Donc les ténèbres se sont étendues aux hommes après. N'empêche que la lumière du monde, le Christ, que l'homme ait péché ou pas, le Christ a la vocation d'être la lumière du monde. Hein? Et puisque l'homme a péché, puisque Satan s'est révolté, eh bien en même temps le Christ a la mission de vaincre Satan et de sauver les hommes, de leur redonner cette lumière qu'ils ont perdue. Alors, l'Esprit Saint, on a vu plus tard que l'Esprit Saint avait conduit Moïse dans le désert. La Shekinah, la nuée, la Shekinah qui conduit le peuple durant la journée et pendant la nuit, la Shekinah, la nuée, c'est le mot en français, c'est Saint-Esprit. Et dans la première aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4, Paul a dit que... le rocher spirituel auquel buvaient tous les Hébreux était le Christ. Et qu'ils avaient passé à travers pas la Méditerranée, mais à travers la mer Rouge, sous la nuée, dans l'Esprit Saint. Vous voyez donc que l'Esprit Saint était à l'œuvre déjà dans l'histoire du peuple de Dieu, à partir, on le voit, à tout bout de champ, hein, et notamment avec Moïse. Bon, ça c'est un petit résumé. Et puis on a été voir d'autres textes dans Ésaïe. Nous, aujourd'hui, on va essayer de nous tourner déjà dans l'Ancien Testament sur ce Jésus de Nazareth qui va apparaître, qui va être l'incarnation, la deuxième personne de la Trinité. Ce Jésus de Nazareth qui va être le Christ, fait chair. Nous allons voir dans Ésaïe au chapitre 11. Il faut bien se dire que de toute manière, Dieu en reste à son plan. Même si l'homme a péché, même si Satan est venu mettre des peaux de banane sous les pieds des hommes, etc., eh bien, Dieu en reste à son plan. C'est lui qui a l'autorité. c'est, il faut jamais se laisser bousculer par ce qu'on voit à la télévision, la radio, par tout ce qu'on entend. Ce ne sont que des vents, j'appelle ça des vents, parce que c'est Dieu qui a autorité. Si vous doutez de l'autorité de Dieu, vous allez vous faire emballer dans les tourbillons, dans les années à venir, dans les mois à venir, ça s'accélère, le mouvement s'accélère pour entraîner les gens dans le chaos, dans la terre. C'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas un enseignement superficiel. Il faut aller tous les jours dans la Bible, il faut la lire, il faut l'approfondir. Il y a des livres là, il faut les lire. Si vous ne le faites pas, vous tomberez dans des tourbillons, parce que Satan aime bien dégarer le peuple de Dieu. Il essaye en tout cas. Ésaïe, chapitre 11. Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, donc un descendant à ce paysan, à cet homme qui s'appelle Ésaïe. C'est pas le prophète, hein. Donc Ésaïe, c'est 1050, 1060 avant Jésus. C'est un homme qui a des fils, hein, dont le dernier, le huitième, est David. Et qui va devenir prophète et roi. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Donc, longtemps après que la famille de ce monsieur sera disparue, hein, elle sera rayée de. Eh bien, il y a quelque chose qui va revenir sur terre, qui a son origine dans sa famille, et c'est le Christ. Donc, un rejeton, c'est quelque chose qui ressort du sol, dans le désert. C'est une racine qui donne tout d'un coup, vous avez déjà vu ça dans les vergers, il y a un prunier, un pommier, et puis tout d'un coup, on n'entretient plus, on ne fauche plus l'air, et tout d'un coup, à 7-8 mètres du pommier, ou à 3 mètres du prunier, il pousse un rejet. Et c'est un prunier, c'est un pommier qui repousse. Si vous laissez le verger pendant 30 ans, ben, il y a des arbres partout. Pourquoi ? Parce qu'il se fait des rejets. Et les rejets, c'est ça, naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, le lion comme le bœuf mangera de la paille, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du serpent, basilic, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance éternelle, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour tous les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Donc on voit vraiment que le Christ, habité de l'Esprit Saint, a une fonction royale, royale. Et donc, pensez à tous ces animaux qui se dévorent, lions, etc. Eh bien, ça, c'était pas avant le péché, il n'y avait pas ça. C'était comme cela. En venant dans le péché, l'homme et la femme ont introduit l'horreur, même chez les animaux, dans la nature. Hein? Le péché a contaminé les animaux. D'ailleurs, quand vous allez chez quelqu'un, prenez un chien. Vous savez, moi je suis habitué à aller chez les personnes, je vois le chien, comment il se comporte, je sais à peu près qui est le maître. Hein? Pratiquement, l'attitude de l'homme a contaminé les animaux. Hein? Mettez un homme nerveux dans un troupeau de vaches, dans une ferme, les vaches seront nerveuses. Ok? Mettez un homme violent parmi un troupeau de moutons, vous verrez comment sont les moutons. C'est la même chose pour tout. Et c'est la même chose même entre les hommes. Donc, le Christ n'est pas du tout comme ça. Il est sans péché, sans violence, sans horreur dans son cœur et dans ses pensées. Et regardez bien, il apporte cet esprit de force, de conseil, de connaissance. Il apporte vraiment la paix. Hein? Voilà une promesse. Donc, dans l'Ancien Testament, on voit bien que l'Esprit Saint est une clé lorsque le Christ va apparaître, une clé de sa vie. Évidemment, on va continuer à lire et on va essayer de comprendre ce que veut dire la parole de Dieu. Mais méditez ce texte parce que c'est de toute manière la finalité de notre création. Ce n'est pas ce qu'on voit à TV qui sera finalement... Ça ne se terminera pas comme on le voit à TV. Même si ça s'empire tous les jours. Hein. Au verset 9, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, donc c'est la relation avec Dieu, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La relation avec Dieu est ce qui se fera. Pour le reste, sera écarté. C'est l'autorité de Dieu d'avoir une relation vivante, sainte avec l'homme, et que l'homme l'accepte, y consente, et soit réellement dans cette œuvre du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est une grâce pour développer une complicité entre l'homme et Dieu. C'est une grâce. Le don du Saint-Esprit est une grâce pour développer une complicité entre l'homme et Dieu. Elle est propre à accomplir les désirs profonds et légitimes de Dieu et de l'être humain. Les deux êtres sont en relation et accomplissent leurs désirs profonds et légitimes. Légitimes, c'est-à-dire qui sont selon les principes divins. Il faut faire attention, donc l'Esprit Saint est le ciment qui retient l'homme à Dieu et Dieu à l'homme. On va regarder au chapitre 42 d'Ésaïe. Chapitre 42 d'Ésaïe, versets 1 à 8. C'est de nouveau un texte qui concerne... Il y en a bien au moins 40 des passages concernant le Christ dans Ésaïe. Hein. Voici mon serviteur... que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. Donc, cette parole, c'est celle que Dieu prononce quand la colombe descend sur Jésus dans le Jourdain, lorsque Jean-Baptiste baptise Jésus. La parole des cieux, c'est celle-là. Et sur le mont Hermon, donc Ésaïe 42, verset 1, sur le mont Hermon, quand Jésus est transformé dans sa gloire, et qu'il y a Moïse et Élie à côté, Pierre, Jacques et Jean, il y a aussi une parole quasiment semblable. Voici mon serviteur en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc, ce texte de Ésaïe 42 est capital. Il fait la jonction entre les promesses et leur réalisation en Jésus. En qui mon âme prend plaisir. Quand je vous ai dit tout à l'heure que l'Esprit Saint, il faut faire attention à ce que nous faisons dans notre vie, comment nous vivons avec Dieu. Il y a une complicité entre l'homme et Dieu pour que se réalisent les désirs profonds de Dieu en nous et de nous en Dieu. Cette complicité est une immense grâce. Bien regardez, en qui mon âme prend plaisir. Le Christ est quelqu'un qui prend plaisir à faire la volonté de son Père, et le Père prend plaisir à déposer son amour, à développer tous les fruits saints du ciel dans un homme, homme Dieu, sur terre, pour que les hommes, les humains, voient ce que est Dieu dans un homme, pour que les hommes aperçoivent leur véritable vocation. Parce que les hommes ne voient que des vocations de ratés. S'ils ne voient pas Jésus. Les hommes ne voient que des vocations de voleurs, de menteurs, de violeurs, d'infidèles, d'incestueux. S'il n'y a pas Jésus, les hommes ne voient que des hommes dénaturés, qui ne sont pas finalisés en Dieu, qui ne sont pas réalisés. L'homme ne peut pas être un modèle sans son Créateur. Alors, en Jésus... Cette complicité entre le Père et lui développe des fruits et le plaisir d'être existe. Le bonheur, si vous voulez. Mais c'est un bonheur extrêmement profond. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice, donc la sainteté, aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Donc il n'est pas né à une époque où il y a Internet, la télévision, et il y a toutes les méthodes qu'on a aujourd'hui. Ça ne l'intéressait pas. Il s'est mis dans un petit village de Bethléem, il est parti comme réfugié en Égypte, il est venu à Nazareth, il a marché, il n'avait même pas une pierre pour reposer sa tête. Ça ne l'intéresse pas de tomber dans les tourbillons d'aujourd'hui, du paraître. Faites gaffe d'être trop souvent sur la TV. Faites gaffe, hein. Moi je dis que pour un chrétien, une demi-heure de TV est largement suffisamment par jour. Faites votre moyenne, il y a 7 jours, choisissez quelque chose, 7 fois une demi-heure, mais si vous allez plus loin, vous êtes tombé dans des pièges. Vous êtes trop faible. Il y a autre chose à faire que de se plonger dans ce genre d'égout, l'égout du monde. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues. Donc, la modestie et la simplicité de Jésus sont notre modèle. Et ils ne sont pas dans ce monde pour le moment, ces modèles-là. Il ne brisera point le roseau cassé. Donc, c'est l'image du pécheur qui est abîmé par son péché, qui est dépravé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Donc, l'homme qui espère encore trouver Dieu, qui espère autre chose, un monde plus juste, mais qui tout compte fait n'a pas le courage de changer sa vie, hein, de se repentir, c'est comme une mèche qui fume un peu, sur laquelle il faut remettre de l'oxygène pour qu'elle s'allume. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Donc l'œuvre du Christ est extrêmement déterminée. Si vous voulez avoir un caractère déterminé, si vous voulez avoir une âme dont la volonté soit guérie, qui puisse lutter contre les péchés et les faiblesses que vous avez reçues de vos parents, les faiblesses que vous avez reçues de votre éducation, de l'école, etc., ou soit dû à des péchés, il y a des faiblesses qui s'installent, des complicités avec le péché, alors à ce moment-là, il y a des faiblesses en nous. La seule façon, c'est de se confier dans la sainte volonté de Jésus. C'est lui qui arrivera à vous redonner, c'est lui qui arrivera à me redonner une ferme volonté, une ferme résolution vers la sainteté et un désir de mettre le péché de côté. C'est au contact, c'est dans la communion avec Jésus qu'on reçoit de ce qu'il est. Par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Nous sommes aspirés vers le vide par nous-mêmes. Alors, établir la justice sur terre, c'est vraiment le Christ qui apporte cette sainteté. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Regardez, hein, l'œuvre de Dieu le Père, je t'ai appelé pour le salut, en parlant de Christ. On est en 780, 760 avant Jésus. Il lui parle comme s'il était en face de lui. Bien sûr, le Fils de Dieu est en présence du Père. Donc, Ésaïe a une révélation de ce qu'il se dit de la part de Dieu le Père à Christ. Et il la met par écrit et il l'enseigne à son peuple. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif. Tout homme est captif, hein, sans le Christ. Tout homme est prisonnier, hein. Il y en a des chaînes, hein. Il y en a des prisons, hein. Spirituelles, et même parfois physiques. La prison physique de celui qui veut toujours acheter, et qui s'endette, hein, il aura le wifi à la porte. C'est tout à fait physique, hein. Et puis on lui vendra peut-être la maison. Celui qui fait des jeux de hasard et tout, qui se ruine, moi j'en connais, ils n'ont plus de maison, plus rien du tout. Alors, ils traînent leur godasse, ils sont malheureux, ils vont demander des aides sociales, ils ont joué aux jeux de hasard. C'est interdit les jeux de hasard. Celui qui voit et qui boit, qui reboit, hein, eh bien, il finira de toute manière par être esclave. C'est matériel. Mais il y a des choses immatérielles, il y a des prisons immatérielles. Si j'aime bien regarder les femmes alors que je suis marié, je regarde les autres femmes, je finirai par habiter, on appelle ça en psychologie les fantasmes, et dans les films, on magnifie ça, hein, c'est magnifique, hein, c'est le bonheur là-dedans. Mais bon, mais ce qu'il y a, c'est pas psychologique. Les fantasmes sont des messages des démons pour lier les gens, les lier dans le monde impur et leur faire la rupture, leur provoquer la rupture avec le lien du mariage qui est sacré, pour déshonorer le mariage, déshonorer l'amour. C'est ainsi que sur notre terre, la plus grande escroquerie, pour moi, se trouve au niveau des rapports d'amour. L'amour humain, actuellement, est dans la plus grande des escroqueries pour la plupart des gens. Combien de gens restent fidèles? Combien de gens, en cachette, ne vont pas faire d'autre chose? Soit par les actes, soit par les pensées. Alors, il faut savoir que Dieu veut faire sauter toutes les prisons, les faire exploser. Est-ce que vous en êtes conscient? Et quand vous avez un petit-fils, un cousin, une tante, n'importe qui est lié par ça, vous allez vous taire? Non, c'est son problème. Oh, on est libre, on est tous libres. Mais ça, vous n'êtes pas ami de Jésus, alors. Vous n'êtes pas ami de la vérité, de la justice divine. Vous êtes ami du monde. L'amitié du monde est une inimitié contre Dieu. L'apôtre Jean le dit dans sa première épître. Vous ne pouvez pas être des deux côtés comme ça, dans le flou artistique. Le Christ vient pour faire sauter les prisons. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. En Christ, il doit opérer dans le même travail que Christ. Hein ? Pour faire sortir de prison le captif, de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Vous savez, quand... En psychiatrie, il y a parfois des gens malheureux qui sont arrivés là parce qu'ils sont fatigués, ils ont eu des vacheries dans la vie, oui, il y a eu des malheurs. Parfois, il y a des gens qui ont plus une hérédité, une fragilité psychologique. Mais il y a énormément dans la psychiatrie, si on retire tous ceux qui sont là, parce que sans le savoir, ils ont été liés par le péché. Liés par le péché. C'est comme celui qui commence avec une cigarette. À 8, 9 ans, 10 ans, une deuxième. Et puis à 10, 11 ans avec les copains, pif, paf, en cachette. Et puis après, ça y est, c'est 2, 3 paquets de cigarettes. C'est comme une gâchoppe. Combien de fois j'ai connu des gens, ah oui, mais on m'a mis, tiens, gamin, ça te fera du bien. Un verre de vin devant, à 8 ans, à 9 ans. Ou le père qui entraînait le fils dans les bistrots, à 10 ans, au terrain de football, et puis pif, paf. 1, 2, 3 verres. Oh, ça te fera du bien, gamin. Tu vas devenir un homme. Et puis, pratiquement, il n'avait pas 20 ans qu'il en boit 15. Chaque fois avec les copains. Et puis, au frère le malin, de temps en temps, il en boit 30. Puis, quand il se marie, ben, il va chercher de préférence une femme qui fait la même chose que lui, parce que si elle ne veut pas, ça va être de la bagarre. Et vous avez déjà observé que les enfants qui sont nés dans des familles où on boit régulièrement, quelle est leur santé, quel est leur psychisme? Et des enfants qui sont nés dans des familles où on ne boit jamais, on ne fume pas, il faut être aveugle pour ne pas voir la différence au niveau santé, au niveau génétique et tout. Rien que là, déjà. Alors, quand on a bu, quand on a, on dit des bêtises, on dit des violences, on tombe dans l'impureté, eh bien, pratiquement, on est lié par des liens autres que l'alcool, autres que tout ça. Alors, il faut faire attention. Les cachots sont nombreux. Le monde est bourré de cachots.
Et de cachets.
Oh oui, ça va avec les cachets, oui. Mais ça a fait vivre les multinationales. Alors, ils habitent dans les ténèbres. Vous vous rendez compte, je dis tout ça, c'est pas pour être sinistre. C'est simplement, vous vous rendez compte de l'énormité du travail de Jésus-Christ? La quantité de travail de délivrance, d'œuvre, de grâce que Dieu, Christ doit distribuer sur la terre pour débarrasser le monde de tout ça? Ah ben là, quand on fait déjà des stations d'épuration d'eau sur les rivières, pour l'eau là, polluée dans les égouts et tout ça, hein, oui, ils retireront bien le caca et les papiers, des trucs pareils. On fera des engrais. Mais ce qu'il y a, tous les produits chimiques qui sont dedans, vous savez très bien que tous les gens de Paris, ils reboivent l'eau de la Seine qui a été recyclée jusqu'à 3 fois. Et vous savez très bien que dans l'eau au robinet, la pilule de la femme s'y retrouve. Ah oui, il y a 13 millions d'habitants, il y a 7 millions de femmes, et elles prennent la pilule, donc on la retrouve dans l'eau. Eh bien, il y a un homme sur deux qui est stérile. Il faut aller dans les hôpitaux pour faire fécondation in vitro, etc. Pourquoi ? Mais parce que toute l'eau qu'on boit est tellement polluée, la vie donc qu'on mène est tellement désarçonnante, déréglée, qu'on n'arrive plus à faire des enfants. Et vive le business de l'hôpital de l'industrie, vas-y pour les éprouvettes. Les amis, ce sont tous des cachots créés par l'homme. Jamais Dieu n'a fait ça. J'ai demandé un jour à un médecin qui pratiquait l'avortement régulièrement. Cet homme allait à Hermès. Il était catholique pratiquant, avec sa femme, Hermès. Je lui ai demandé, mais il pratiquait l'avortement. Il trouvait que c'était bien, que c'était faisable. Pourtant, il était extrêmement compétent dans son travail. Si on retire ce problème-là, il était très compétent, de haut niveau. Et pratiquement, je lui dis, qu'est-ce que vous pensez, docteur? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont créés, handicapés, anormaux? Il me dit, non, jamais. C'est le comportement des humains qui amène ça. Voilà. Et il ne me l'a pas fait pour me faire une fleur, il le pensait. C'est le comportement des humains qui amène ça. Donc la responsabilité, les cachots, les liens. Et donc Jésus-Christ, c'est tout le contraire. Vous comprenez que Jésus-Christ, ce n'est pas simplement « Oh Jésus, je crois en toi, tu vas me sauver, oui. Oui, c'est bien. Je vais faire de temps en temps prière. » Non, c'est le rédempteur du monde. C'est celui qui va balayer tout ce qui est mauvais sur la terre. Il est plus puissant que la bombe atomique. Il est plus puissant que tous les antibiotiques. Il est plus puissant que tout. C'est Dieu. Si Jésus est un bricoleur, tout va rater. Dieu n'a pas envoyé un bricoleur sur terre. Jésus, le Fils de Dieu, est tout puissant. Alors, 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Voilà ce que je voulais dire. Voici les premières choses se sont accomplies, je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous ai prédit. J'ai voulu expliquer à ma façon, un peu platement, mais concrètement, ce texte. Je pourrais prendre des grands mots théologiques et tout le reste, mais ça passera 2000 mètres au-dessus de nos têtes. Je veux que ce soit clair. Le Christ est le sauveur du monde. Il est le Tout-Puissant. Je me rappelle bien, un jour je devais aller à Verdun à l'hôpital pour voir un ami musulman converti. Il avait le cancer à la tête. 5 ans avant, le Seigneur avait guéri d'un cancer du pancréas et il avait accepté Jésus dans sa vie. Et puis je reprends à l'hôpital. Je veux y aller, pas de sous dans les poches, pas d'essence dans le réservoir. On prie en famille, et puis tout d'un coup, quelqu'un téléphone, me dit, tu n'aurais pas besoin d'argent? Ben si. Ben viens, je vais t'en donner. Je suis parti directement là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a voulu que ça soit possible. J'ai dit, écoute, mon cher, je ne vais pas dire le prénom parce que c'est enregistré, mais pratiquement, est-ce que tu peux encore dire aujourd'hui, comme tu l'as dit il y a 5 ans, Jésus est le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, le Rédempteur du monde, le Sauveur? Oui. Tu veux bien le dire? Il l'a dit, oui. Bon, maintenant, s'il a toute autorité, toi, tu n'as pas pardonné à 2 de tes filles qui sont conduites mal, qui sont parties avec différents hommes. Il faut que tu règles ça avant de partir. Il t'a pardonné tes péchés, il faut aussi que tu pardonnes à tes filles. Et puis, tu as tellement été violent, tu ne les veux plus les voir depuis des années. S'il te plaît, demande leur pardon pour ta violence. Ce péché-là, d'avoir jugé tes filles, de les avoir condamnés, n'est pas bon. Dieu ne veut pas ça dans son paradis. Tu dois te débarrasser de ça avant de partir. Alors, on a téléphoné et elles sont venues. Elles sont venues, bien sûr. Elles se sont réconciliées avec papa. Ils ont demandé pardon. Ils pleuraient tous. Celle de Suisse et celle d'ici, du coin, pleuraient. Et il y avait une puissance pour les écarter. Moi, je tenais la tête du papa comme ça, posais mon coude dans son lit, et pour qu'il ait les yeux en face de sa fille, je tenais la tête de la fille. Eh bien, il y avait comme une force terrible. Je demandais, Seigneur, aide-moi à les tenir en face de l'autre. C'est comme si Satan voulait les écarter. Une force. Comme s'il y avait un camion qui tirait de chaque côté. Et pratiquement, ils se sont réconciliés. Et moi, je suis parti après dans le corridor. Et quand elles sont sorties, elles m'ont dit, on n'a jamais espéré un jour comme ça. C'est le plus beau jour de notre vie. Voici les premières choses se sont accomplies, je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Si vous avez de la foi comme vous avez, vous verrez les montagnes jetées à la mer. Si vous n'en avez pas cette foi, vous verrez toujours les montagnes devant vous, et le Christ sera autre part, mais pas avec vous. Vous devez croire que toutes les montagnes de péché, toutes les montagnes d'horreur, de conséquences de péché, seront balayés, jetés à la mer, en enfer. C'est cette autorité-là que Jésus a. C'est dans votre prière, vous devez confesser à toute puissance de Jésus, et son autorité sur la création, sur votre vie aussi, sur ma vie. Autrement, on n'est pas capable, hein. On n'est capable de rien. C'est lui qui a toute la capacité, toute la puissance. Au verset 16, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. » Donc, il faut que nous sortions notre ignorance. Et ça, c'est Jésus qui nous instruit. « Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. » Donc, toutes les ténèbres des cœurs, des vies, des sociétés en lumière. « Et les endroits tortueux en pleine. » Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Vous vous rendez compte que Dieu a dit « Je ne les abandonnerai point ». Qui peut se targuer de dire « Je n'abandonnerai pas les pécheurs de ce monde ». Mais il y a les pécheurs, bon, un peu inconscients, qui s'y jettent par ignorance, ou en tout cas, je ne sais pas, par bêtise. Puis il y a ceux qui le font volontairement, il y en a un paquet. Eh bien, je ne les abandonnerai pas. Quand j'étais à Jérusalem, là, devant le rocher du crâne, j'ai attendu que tout le monde parte. Et puis, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré, et j'ai dit, Seigneur, je serais bien mort pour un ami ou deux, pour des gens que j'aime, mais pour toutes les crapules que j'ai déjà rencontrées, non, ça, c'est pas possible. Pas possible. Cet endroit-là, surtout, quand on voit l'endroit, mais toi, tu l'as fait. Toi, ton amour est immense. Pardonne-moi, Seigneur. Augmente mon amour pour les pécheurs. Augmente mon amour pour ceux qui sont perdus. Et Seigneur, ton amour est infini pour les pécheurs. Jésus n'abandonnera pas ce monde à Satan. Alors, plus forte raison pour un pécheur, pour un chrétien, de ne pas abandonner le combat. Un chrétien ne doit pas abandonner le projet de Jésus. Parce qu'autrement, c'est l'église de Laodicée. Je vous vomis, vous les tièdes. Que n'es-tu chaud ou froid? Hein? Laodicée. Apocalypse, chapitre 3. Alors, verset 17. Ils reculeront et seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, sourds, écoutez, aveugles. Regardez, voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Donc, plus on se vante de connaître Dieu, plus on risque d'être aveugle. C'est bizarre ça. Mais oui, c'est parce qu'il y a l'esprit de présomption. Ah, bon, je suis sauvé. Ah, je sais ci. Ah, je sais ça. Et tout, de nouveau, le péché peut être à l'œuvre d'une manière sournoise. Sournoise! Et renaître en nous et prendre d'autres formes. Il faut faire attention quand on est sauvé, quand on a donné sa vie à Jésus, de toujours être sous la dépendance de Jésus, sous sa direction, sous sa puissance, sous sa grâce. Et pas de dire, je suis sauvé, je suis baptisé, etc. Ça y est, j'ai mon diplôme, ça y est, j'ai mes décorations. Vous savez que mon beau-père et mon père ont refusé les médailles après la guerre. parce que plein les recevaient, ils n'avaient rien fait pendant la guerre. Eh bien, il faut faire attention, ne soyons pas des chrétiens avec des médailles qui n'ont rien foutu dans le combat avec Christ. Ça ne marchera pas. On ne pourra pas rentrer tout près de Dieu. Le cirque n'existe que sur terre, pas au ciel. Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe 58, verset 3. Voici l'image de l'homme religieux, mécontent parce que Dieu ne dit pas amen à tout ce qu'il a demandé, il ne lui a pas donné toutes les sucettes ou tout dans les souliers comme le Père Noël. Hein. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ? Ésaïe 58, verset 3. Que nous sert de mortifier notre âme si tu n'y as point égard ? Voilà, on s'en prend à Dieu. Hein. On s'en prend à Dieu. Ça peut arriver, hein. On est tous faits de... Hein ? En descendant d'Adam et Ève. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos ouvriers. Donc, Ésaïe 58, verset 3. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Donc, Dieu veut une parole vraie. Dieu veut un cœur vrai qui s'adresse à lui. Et un homme qui prononce des choses et a un cœur méchant, Dieu a fermé les fenêtres et les portes. Est-ce là, verset 5, le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Alors, vous voyez, les simagrées des croyances, des différentes croyances dans lesquelles on peut tomber. Maintenant, regardons le verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug. C'est pas ça la prière de Marie, les Magnificat, dans Luc, hein, quand Marie, elle loue le Seigneur, parce que Jésus est venu. Jésus vient dans sa vie, dans son monde et puis dans le monde. Et bien, c'est ça les Magnificat, c'est là. C'est là, comme la prière de la maman de Samuel, la prière de Anne, c'est la même chose. Elle l'a porté, elle porte dans son ventre un enfant qui est Samuel, un vrai prophète. Elle a la même prière que Marie. Et que là, la même pensée. C'est des pensées venues de l'Esprit Saint. C'est des pensées de vérité et de justice. Ce n'est pas les pensées corrompues qui vont avec toutes les tricheries de ce monde. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Ta gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Vous savez que le mot gloire dans l'Ancien Testament, c'est l'Esprit Saint, c'est la Shekinah. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Vous voyez la relation de complicité où tous les désirs légitimes d'un cœur vrai et les désirs légitimes de Dieu, qui est le plus vrai de tous, se croisent, se mixent. Ça, c'est un vrai mariage. On se comprend. C'est pour ça que Jésus a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que pense son maître, mais un ami si. Vous voyez, c'est là. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il me dira, me voici. Vous vous rendez compte? Notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, d'en venir à ce point-là, un état de communion, où Dieu accourt vers son enfant. Pourquoi? Parce qu'on ne triche pas. On cherche à être tout simple avec lui et tout vrai. Et on lui laisse toute la place essentielle. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, c'est un sacré boulot. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera ton guide, il rassasira ton âme dans les lieux arides. Où ils sont les lieux arides? Dans mon âme, quand elle n'obéit pas à Dieu. Il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Voyez, la communion avec Dieu est possible. Mes amis, c'est un grand miracle qui est proposé à l'homme, une grande grâce. Allons dans Jean chapitre 7. Il y a beaucoup à dire sur l'œuvre de l'Esprit-Saint, dans l'élévation de l'âme du croyant, dans sa... la souveraineté de Dieu dans nos vies. Mais bon, on ne fera pas tout aujourd'hui, évidemment. Jean chapitre 7. Chapitre 7, verset 37 à 39. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Comprenez bien que si Dieu le Père était en face de nous, on est tellement impressionné, ça y est, on est à plat ventre. Hein. Mais imaginons que ce soit le Christ qui soit là, on sera extrêmement impressionné aussi. Même s'il nous a aimés, il nous aime, on sera impressionné par sa grandeur. Mais maintenant, si Dieu, Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui est divin, vient dans nos vies, il nous laisse tout le choix de mixer notre cœur avec le sien. Il n'y a pas cette impression, cette frayeur, mais il y a cette liberté et ce devoir de l'aimer et de le laisser nous conduire. C'est ça que je veux dire, que Dieu a choisi de faire le cadeau de l'Esprit-Saint pour que notre complicité avec Dieu soit basée sur l'amour en nous pour lui. Il n'y a pas de vraie foi sans amour pour Dieu. Quand Paul dit dans Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu a été rendu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Ok ? C'est pour ça que pour le moment on ne voit pas Dieu. Mais on serait comme une souris qui voit 1000 chats. On serait trop impressionné. Mais Dieu qui prend sa position dans nos vies par l'Esprit Saint, par lui-même, Esprit Saint, qui est Dieu, il nous laisse la capacité du oui et du non, la capacité de l'obéissance, la possibilité de l'obéissance, la possibilité de développer notre amour pour lui par notre responsabilité, notre consentement. Quand on fait un mariage, le jour du mariage, l'homme et la femme, oui, je t'aimerai pour le meilleur et pour le pire, hein, on met l'anneau, etc. Bon, vous savez très bien ça, on demande à d'autres de prier. Et puis quoi ? À partir du moment où l'accès est fini, ils sont responsables tous les deux de ce qu'ils vont devenir ensemble, de cet amour-là. Dans combien de cas cet amour va être réel et grandir et les souder, les unir ? C'est devenu rare, les amis. Mais ce n'est pas interdit aux autres aussi d'aimer vraiment, d'aimer en vérité. C'est la même chose quand quelqu'un se donne à Jésus et l'Esprit Saint lui est donné. Mais il a la liberté de attrister l'Esprit Saint, comme s'il était dans le placard, l'attrister ou de le réjouir. Nous sommes responsables de la joie de Dieu dans notre vie. Nous sommes responsables du contentement de Dieu dans nos vies. Dieu est humble. Jésus de Nazareth était content quand on l'accueillait dans une maison, quand on le recevait quelque part. Il s'est fait humble pour que les petits et les grands puissent le trouver. Eh bien, l'Esprit Saint se fait humble, les petits, pour qu'on puisse l'accueillir. En vérité, vraiment. Sans fard, sans obligation, sans intérêt, sans tricherie. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est petit. Il se fait petit pour nous. Ce n'est pas pour ça qu'il est petit, l'Esprit Saint. Comprenez ? Il est Dieu. Donc quand quelqu'un s'invite dans notre vie comme l'Esprit Saint, et qu'il est saint, respectons-le infiniment par amour pour lui. et faisons ce qu'il veut nous faire comprendre. Faisons ce qu'il est en train de nous dire. Et comment savoir où il parle, l'Esprit Saint ? Dans la parole de Dieu, bien sûr. Et dans notre amour pour Jésus-Christ aussi. Le dernier jour, Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, donc Pâques, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié sur la croix et à la résurrection. Mais ce qu'il y a, quand vous regardez bien, Jésus a la capacité de nous aimer et de nous conduire. De nous conduire. Il veut nous conduire. Jean chapitre 3, verset 34. Jean chapitre 3, verset 34. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Toutes les choses de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est l'absolu, l'Esprit Saint. Jésus est venu avec le plus grand des trésors, le plus grand des dépôts divins dans le monde pour le conférer à ceux qui croiraient en lui. Ok ? Bien, voyez, ce que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. Donc, l'Esprit Saint est en Christ, et si nous regardons ces paroles que mettons en pratique, l'Esprit Saint conquiert nos âmes si faibles, mais que Dieu aime tant. Et est-ce que vous avez remarqué ce qui s'est passé avec Nicodème au chapitre 3. Chapitre 3, verset 3. Avec ce brave homme, Nicodème, qui vient pendant la nuit, et qui n'avait pas lu profondément Jérémie ni Ézéchiel, parce qu'il aurait connu ce que Dieu avait déjà dit. Je ôterai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, et puis je vous donnerai le Saint-Esprit, etc. Tout a été prévu déjà dans l'Ancien Testament. Eh bien, pratiquement, notre brave Nicodème, il est dans la semoule, et faisant attention de ne pas l'être, il faut approfondir la parole de Dieu régulièrement. Alors, voilà ce que Jésus dit au verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Un peu plus loin. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, donc sous péché d'Adam et Ève, est chair. Humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit Saint. Voilà, chers amis, l'Ancien Testament trouve en Jésus-Christ tout son achèvement, son accomplissement. Dans le Christ, nous avons l'œuvre manifeste de l'Esprit Saint. Et ça dérange tellement Satan que le bonhomme Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, que personne n'a encore vu comme le fils de Dieu, ça dérange tellement Satan qu'il le suit dans le désert. Jésus est en train de prêcher, de prier, et il va commencer dans le ministère, il va pour se préparer dans le désert. Mais Satan va le trouver, il n'est pas content. Oh. Si celui-là, il débarque, moi c'est foutu. C'est ça qu'il se dit. Si jamais les Américains et les Anglais arrivent à réussir leur débarquement en Normandie, c'est foutu, Hitler. Déjà qu'il y avait eu celui-là en Sicile, à Thessalonique, à Alger. Bon, ça y est, en Normandie, ah, surtout pas. Tous les canons, tous les chars, tout le bazar là-haut. Bon, ben Satan, il fait comme ça. Ben Satan, il va faire quoi? Ben regardez bien, Matthieu, chapitre 4. Méditez-le, on va voir dimanche. Le contraire de l'Esprit-Saint, c'est ce que Satan dit bien. Et ce qu'il propose aux hommes. Qu'est-ce qu'il propose aux hommes? Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 3. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc, il va demander à Jésus de faire des miracles. Mais surtout pas de mourir à la croix, hein. Surtout pas de payer la dette des hommes, comme ça ils rentreront pas au paradis. Il va surtout pas donner le Saint-Esprit, parce qu'ils lui ressembleront plus au diable. Ils vont plus suivre, ils vont plus l'écouter. Ces hommes-là vont devenir l'ennemi de Satan. Alors, ah non, surtout pas. Alors, distrayons Jésus, demandons-lui de faire des miracles partout. Il sera content, il fera boum boum, tout le monde l'applaudira, il aura la gloire des hommes, et il aura oublié tout le reste. Même que Jésus l'aurait fait, le péché n'étant pas réglé, il y aurait une bande de gaillards qui aurait pris tous les pains, les pierres changées en pain, et puis il y aurait été les revendre aux autres. Et il y aurait encore des gens affamés et malheureux. Une de mes sœurs qui a travaillé au Maroc, dans les montagnes de l'Atlas, l'UNICEF envoyait des boîtes de lait, des vêtements, etc. pour les villages. Qu'est-ce qu'il faisait, le chef du village, avec deux, trois? Il prenait tout, il en donnait à sa famille, à son clan, puis il revendait aux autres. Et si l'autre n'a pas d'argent? Donc, vous avez beau changer toutes les pierres en pain. Si le péché existe, il y aura toujours des gens qui vont mourir de faim. Aujourd'hui, il y a plus d'armes sur la terre que de pain. Et si on voulait arrêter tout ce commerce d'armes, il y a du pain pour tout le monde. Au matin, à midi et au soir. Tout le monde. Et des scientifiques qui l'ont affirmé. On pourrait être 40 milliards et avoir tous à manger 3 fois par jour. Mais non. Donc où est le problème? L'absence de pain? La famine? Non, le péché. Le péché qui détourne les biens que Dieu a donnés pour faire des malheureux, des injustices. Donc, Jésus ne tombe pas dans le panneau. Taratata. Alors, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole nous amène à découvrir notre nature qui transgresse, qui désobéit. Et la parole de Dieu convainc le péché. La parole de Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, nous amène à nous repentir et à nous donner à Dieu et à faire la volonté de Dieu. Donc la parole de Dieu est à la base de la transformation de l'humanité. Et donc Jésus est venu pour la parole qui sauve. Regardons, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, à Jérusalem donc. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Alors le diable connaît la Bible, figurez-vous. Jette-toi en bas, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est le psaume 91, 91. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce texte, ça veut dire que les anges vont ouvrir le tombeau et faire sortir Jésus ressuscité. Juste après, dans le psaume 91, 91, il est mis que le Fils de l'homme écrasera le serpent, la vipère. Donc c'est l'échec de Satan. À la sortie du tombeau, quand les anges ouvrent le tombeau et que Jésus sort dans sa gloire de ressusciter, Satan a perdu la partie. C'est mis dans le psaume 91-91. Eh bien lui, non, il utilise un verset et il va se dire, Satan fait ça souvent. Il fait semblant de connaître la Bible, il propose un verset pour distraire les gens du vrai sens du texte de la Bible. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Que Jésus fasse le kamikaze, le Rambo, etc., le faire valoir. Tous les Jeux Olympiques, tous les sports sont aujourd'hui dans le faire valoir. Au point qu'on donne des millions de dollars aux sportifs qui réussissent et qui demain meurent aussi dans leur péché. Vous voyez à quel point on crée des idoles humaines, des stars, etc. Et Satan voulait faire de Jésus une star, il a refusé. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc Jésus dit ici, moi je suis Dieu, Je ne marche pas dans la combine. Jésus se définit comme Dieu. Je suis Dieu. Je ne suis pas un pécheur, moi. Passe ton chemin. Et le troisième, c'est le diable le transporta sur une montagne très élevée. Il lui montra toutes les richesses du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu serviras lui seul. Aujourd'hui, ce culte de l'argent, ce culte de la puissance, nous voyons tous les chefs d'État en parler et flatter les populations avec ça. Et on applaudit, et c'est ceux-là qu'on suit, ceux-là qu'on montre à la télévision. Et Jésus a de moins en moins de place, parce qu'il dit le contraire de eux. Vous voyez bien, le culte de Satan, c'est la puissance et l'argent, c'est l'orgueil. Donc le Saint-Esprit nous amène à renverser toutes les valeurs de ce monde. Le Saint-Esprit nous amène à choisir un chemin sans compromis, où le péché n'a pas autorité. Voilà, voilà la vraie œuvre, le vrai fruit du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse et nous apprenne à marcher dans cette voie sacrée de l'Évangile. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, tout.